France Culture.
Le journal de la rédaction vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Si l'Europe veut la guerre, la Russie est prête. Un Vladimir Poutine menaçant tout à l'heure au Kremlin avant de recevoir les émissaires de Donald Trump. Le président russe qui se défend, lui, de vouloir faire la guerre aux Européens. Nous serons à Moscou dans un instant. En Géorgie, le pouvoir pro-russe aurait utilisé des produits chimiques pour asperger les manifestants pro-européens avec des canons à eau. Une enquête de la BBC très commentée à Tbilissi où nous retrouverons notre correspondant Théo Bourgerigons. En France, faible mobilisation contre l'austérité pour les salaires. Aujourd'hui, quelques milliers de manifestants à Paris. La CGT n'a pas forcément choisi la bonne date pour mobiliser, alors que la discussion budgétaire s'enlise au Parlement. Le dossier de la rédaction consacré aux 10 projets de rénovation urbaine validés par l'Élysée. Une nouvelle approche de la politique de la ville avec la participation des habitants. Les explications de Chloé Leprince à la fin de ce journal. Volodymyr Zelensky veut mettre fin à la guerre en Ukraine. En déplacement en Irlande, le président ukrainien a expliqué qu'il ne voulait pas seulement obtenir une pause dans les combats. Une paix digne et nécessaire, a-t-il insisté lors d'une conférence de presse à Dublin. Volodymyr Zelensky écarté des discussions en cours sur le plan de paix américain. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, est au Kremlin aujourd'hui pour rencontrer Vladimir Poutine. Et il est accompagné de Jared Kushner, le gendre du président américain. On retrouve à Moscou Sylvain Tronchet. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Sylvain, avant la rencontre, le président russe a tenu des propos très violents à l'encontre de l'Europe, accusé de ralentir les négociations.
Oui, pendant que Steve Witkoff et Jared Kushner patientaient en faisant le marché de Noël sur la place Rouge, Vladimir Poutine, lui, refroidissait l'ambiance en donnant une interview aussi rapide que brutale au sortir d'un forum économique. L'Europe présente des propositions de plan de paix inacceptables pour la Russie, a martelé le chef du Kremlin, pour qui les Européens ne tiennent pas compte de la réalité du terrain et sont les véritables fauteurs de guerre. Vladimir Poutine s'est donc fait menaçant.
Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Je l'ai dit et répété 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous attaquer, nous sommes prêts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si l'Europe nous déclare la guerre, je pense que ce sera très rapide. Ce n'est pas comme avec l'Ukraine.
Voilà, allusion à peine voilée au caractère nucléaire qu'aurait une confrontation avec l'Europe. Cela faisait longtemps que le président russe n'avait pas brandi cette menace. Il est assez significatif qu'il le fasse aujourd'hui, au moment où des émissaires américains sont dans la capitale russe. Le chef du Kremlin avait prévenu ces derniers jours qu'il n'était pas disposé à faire des concessions sur ses revendications territoriales. Notamment, il a répété qu'il était prêt à poursuivre la guerre si c'était le moyen d'arriver à ses fins. Le message de ce soir semble enfoncer le clou.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Merci. Vladimir Poutine qui veut aborder ses négociations en position de force. La Russie a revendiqué hier la prise de Pokrovsk, une ville stratégique du Donbass, où l'armée ukrainienne résiste depuis des mois. Moscou a posté une vidéo censée montrer des soldats brandissant un drapeau russe sur la place centrale de la cité. En réalité, Claude Guibal, les outils numériques dont on dispose aujourd'hui pour suivre ce conflit ukrainien ne prouvent pas que Pokrovsk est bien tombé aux mains des Russes.
L'un des outils utilisés pour monitorer les combats en Ukraine s'appelle Deep State, une application actualisée en temps réel. La carte bascule en vision satellite, des flèches montrent les attaques en cours, on clique sur des petits carrés pour obtenir le nom des bataillons. Financé par des dons, Deep State a été créé par des volontaires ukrainiens qui travaillent en open source. Ils analysent photos, vidéos, témoignages, images satellites et croisent le tout avec des sources militaires. C'est rapide, assez précis, mais pas neutre puisqu'elle ne prend pas en compte les sources russes comme le média Ribar. Il faut ensuite recoupé avec des sites d'analyse militaire indépendants et des outils de géolocalisation, des images satellites. À Pokrovsk, Deep State montre une énorme zone contrôlée par l'armée russe, mais pas sur l'ensemble de la ville, quasiment rasée et vidée de ses habitants. Or, on peut se battre des semaines pour une seule rue et tant qu'il restera un soldat dans le coin, personne ne reconnaîtra de défaite. L'armée russe contrôle l'essentiel de ces ruines depuis déjà plusieurs semaines, mais proclamer une victoire aujourd'hui est évidemment une façon d'influencer l'émissaire américain Steve Witkoff Lavrov, reçu aujourd'hui par Vladimir Poutine au moment où Volodymyr Zelensky est plus que jamais fragilisé.
Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France. En Géorgie, cela fait un an que des dizaines de milliers de manifestants pro-européens défient le parti pro-russe au pouvoir, Rêve géorgien. Un parti qui n'a pas hésité à déployer la police anti-émeute pour réprimer les rassemblements. Selon une enquête de la BBC, les forces de l'ordre auraient utilisé pour leurs canons à eau un agent chimique, le cyanure de bromobenzyl. Ce produit a des effets nocifs pour la santé, comme nous l'explique le chercheur géorgien Constantine Tcharounashvili. Notre correspondant à Tbilissi, Théo Bourgerigons, l'a rencontré.
Constantine Tcharounashvili est chercheur, mais il est avant tout pro-européen. Dès novembre 2024, il participe aux manifestations contre Rêve géorgien, qu'il accuse d'être à la botte du Kremlin. Plusieurs fois aspergé par des canons à eau, il note des effets différents de ceux du gaz lacrymogène.
J'ai eu des marques que je ne pouvais pas effacer pendant plusieurs jours, et l'eau empirait les choses. D'autres amis ont eu des saignements de nez, certains souffraient de fatigue, de vomissements, ainsi que de symptômes psychologiques, comme des crises de panique.
Il décide de faire sa propre étude clinique. Il enquête sur 69 manifestants qui se plaignent de douleurs. Les résultats publiés la semaine dernière dans le journal académique Toxicology Reports laissent entendre qu'un produit autre que du gaz lacrymogène aurait été utilisé par la police. Il serait la cause de dysfonctionnements cardiovasculaires majeurs.
Soit l'oxygénation ne se fait plus correctement dans les poumons, soit les poumons eux-mêmes sont endommagés, ce qui empêche d'apporter assez d'oxygène au cœur. Et donc le cœur doit pomper davantage de sang.
L'enquête de la BBC va plus loin. Elle affirme que du très nocif cyanure de bromobenzyl aurait été ajouté au canon à eau. Cet agent chimique, utilisé par l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, a été retiré au vu de sa toxicité. Constantine Tcharounashvili est certain que la police en fait usage.
Ça ne me surprendrait pas du tout qu'ils l'utilisent. Ils n'ont pas de limites. Ils les repoussent toujours plus loin. Je m'attends à tout de leur part.
Le parti Rêve géorgien a nié toutes les allégations, accusant la BBC de mener une campagne malhonnête et mensongère. Le chercheur a reçu ce matin une convocation par les services de sûreté de l'État.
Le reportage à Tbilissi de Théo Bourgerigons. Les mots sont forts. L'Allemagne traverse sa crise économique la plus profonde de l'après-guerre, selon l'alerte lancée ce matin par la Fédération industrielle allemande. Au cœur de cette crise, il y a la sidérurgie, secteur clé en Allemagne, premier producteur européen d'acier et septième mondial. Symbole de ses difficultés, le géant ThyssenKrupp. On retrouve à Berlin Sébastien Bayer. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas. Bonsoir à tous.
Sébastien, ThyssenKrupp et le syndicat IG Metall viennent d'annoncer 11 000 suppressions de postes sur 26 000.
Ah oui, c'est tout simplement le programme d'économie le plus sévère de l'histoire de l'entreprise. En plus de ces suppressions d'emplois, ThyssenKrupp prévoit d'amputer les salaires de 8% et de faire passer la production annuelle d'acier de 11,5 tonnes à 9 tonnes. En prévision, le groupe vient d'ailleurs de mettre à l'arrêt l'un de ses quatre hauts fourneaux, comme le reste de la filière européenne. ThyssenKrupp est confronté à une crise sans précédent. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix de l'énergie que le secteur consomme en grande quantité. Les droits de douane américains de 50% ont aussi fait bondir les coûts de production. Et la Chine, qui vend son acier à des prix inférieurs, en profite pour récupérer des parts de marché. L'an passé, elle a fabriqué plus de 1 000 millions de tonnes, plus de la moitié de la production mondiale. L'année dernière, l'Allemagne, de son côté, a produit seulement 37 millions de tonnes d'acier, 30% de moins qu'en 2018. Alors, pour tenter de sauver le secteur, le chancelier a organisé le mois dernier à Berlin un sommet de l'acier. Friedrich Merz s'est engagé à baisser les prix de l'électricité de l'industrie. Il plaide aussi pour des droits de douane accrus pour réduire les importations d'acier, notamment chinoises. L'enjeu est de taille partout dans le secteur manufacturier. L'acier est présent, de la construction automobile aux machines-outils. 80 000 personnes travaillent ici outre-Rhin dans l'industrie sidérurgique et 5 millions d'emplois dépendent indirectement de la filière.
Merci Sébastien Bayer, correspondant de France Culture en Allemagne. En France, les trois syndicats qui appelaient aujourd'hui à la mobilisation n'ont pas vraiment gagné leur pari. Très peu de perturbations dans les transports et du côté de l'éducation nationale et des cortèges plutôt clairsemés. La CGT, la FSU et Solidaires voulaient dénoncer l'austérité budgétaire et réclamer une revalorisation des salaires. Un double mot d'ordre qui a rassemblé quelques milliers de manifestants. Place de la Bourse à Paris. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Il faut dire que cette offensive syndicale menée par la CGT intervient revient en plein brouillard parlementaire. Les débats sur le budget de l'État et celui de la sécurité sociale s'enlisent à l'Assemblée. La CGT qui n'a pas vraiment choisi son jour pour mobiliser, Wafia.
Oui, il y avait beaucoup de camions, quelques ballons, mais peu de manifestants dans les rues parisiennes cet après-midi. Pour Sophie Binet qui dirige la CGT, elle était en tête de cortège, il faut poursuivre la mobilisation malgré les circonstances encore floues quant au vote de ce budget.
Le gouvernement a une stratégie d'anesthésie générale. En fait, le problème du budget, c'est que plus personne n'y comprend rien. Plus personne ne sait ce qu'il y a dedans, comment vont se passer les débats, comment vont se passer l'adoption. Et donc, évidemment que dans ce contexte-là, c'est plus difficile pour les travailleurs et les travailleuses de se mobiliser. C'est la raison pour laquelle nous organisons cette action aujourd'hui et que nous mettons à disposition la plateforme d'interpellation des députés. C'est pour permettre de faire la transparence sur ce qui figure toujours dans ce budget.
Année blanche sur les prestations sociales, franchises augmentées, baisse des budgets des hôpitaux, taxation des mutuelles. Alors que la copie finale s'écrit en ce moment même au Parlement, il faut agir avant que ces décisions ne pèsent trop lourd sur les services publics. Il faut un budget, estime Caroline Chevet, secrétaire générale de la FSU, le syndicat représentatif des agents publics, mais pas avec les orientations du gouvernement.
On est aussi tout à fait responsable et conscient qu'il est nécessaire de réduire le déficit. Simplement, ce qu'on dit, c'est que réduire le déficit, ça ne peut pas se faire sur le dos des services publics ni des agents des services publics. Ça ne peut pas se faire sur le dos de l'hôpital, de l'école ou de celles et ceux, par exemple, dans les collectivités territoriales qui sont en charge des politiques sociales. Oui, bien sûr, on veut un budget pour 2026. On veut un financement pour la sécurité sociale aussi. C'est absolument fondamental. Mais pas ce budget-là, pas avec ces mesures qui sont des mesures punitives et qui vont fragiliser encore les services publics.
Des agents des services publics inquiets, on l'a entendu, pour leur avenir, dit-elle, mais que cette alerte budgétaire n'est pas parvenue à mobiliser.
Wafia Kenich, merci. Et pendant ce temps-là, l'Assemblée vient d'entamer un nouvel examen du PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Le Sénat a supprimé la principale mesure de ce budget, la suspension de la réforme des retraites. Les députés, eux, se prononceront mardi prochain, 9 décembre. L'adoption du texte est très incertaine. Du côté du Bloc central, Édouard Philippe estime qu'en l'état, on ne peut pas voter pour ce budget. Horizon, le groupe de l'ancien Premier ministre, compte une trentaine de députés au Palais Bourbon. Non, Emmanuel Macron ne veut pas imposer un label d'État pour la presse. L'exécutif a décidé de contre-attaquer face aux accusations des médias Bolloré. Depuis un peu plus d'un mois, le chef de l'État s'est lancé dans un vaste chantier pour dénoncer les risques que les réseaux sociaux feraient peser à ses yeux sur la démocratie. Et dans ce cadre-là, il s'est redit favorable à une labellisation professionnelle permettant de distinguer les sites et les réseaux qui font de l'information des autres. Le JDD, CNews et Europe y voit une dérive totalitaire. Droite et extrême droite leur emboîtent le pas. L'exécutif réplique, Rosalie Lafarge.
Une réponse en deux temps. Cette vidéo, hier soir, d'abord sur le compte officiel de l'Élysée sur le réseau social X.
Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda.
Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente depuis la peste brune et la peste rouge.
Reprise d'une partie des propos de plusieurs figures de CNews avec ces trois mots en gros, attention, fausse information. Et derrière, la présidence relaie les propos tenus par Emmanuel Macron pendant ses récents échanges avec des lecteurs de la presse régionale.
C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux.
Pas de label d'État, pas de ministère de la vérité, répète encore ce matin au Conseil des ministres le Président, favorable à une certification professionnelle du type de celle déjà proposée par Reporters sans frontières. Mais le RN dénonce une tentation autoritaire, LR un tri gouvernemental des médias, Bruno Retailleau, le patron de la droite, a lancé une pétition. Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, a fait pareil. Et l'heure de groupe s'en indigne cet après-midi lors des questions au gouvernement. De quoi agacer la ministre de la Culture, Rachida Dati.
Jamais le président de la République ou le gouvernement n'ont eu comme projet ou l'idée de labelliser un média. Jamais. C'est clair et net, ça n'a jamais été notre projet. C'est peut-être le vôtre, ça n'est pas le nôtre.
En écho au Tour de France mené en ce moment par le président pour alerter sur les risques des réseaux sociaux pour la démocratie, la ministre ministre évoque tout de même la nécessité d'aider les médias dits traditionnels à maintenir, dans un contexte bouleversé, leur exigence déontologique.
Un décryptage signé Rosalie Lafarge. David Rachline renonce à la vice-présidence du Rassemblement national. Le maire de Fréjus l'annonce aujourd'hui dans un communiqué, alors qu'il fait face à des accusations de malversation. Marine Le Pen avait demandé cette mise en retrait. David Rachline va briguer un troisième mandat de maire de Fréjus en mars prochain, mais il n'a pas sollicité l'investiture du RN. Le tribunal administratif de Paris condamne l'État pour avoir tardé à organiser des séances d'information et d'éducation à la sexualité à l'école. Une condamnation à payer l'euro symbolique. Le tribunal avait été saisi par trois associations, le Planning Familial, SIDAction et SOS Homophobie. Noémie Bonin, qu'est-il reproché exactement à l'État dans ce dossier ?
Ce que la justice reconnaît aujourd'hui, c'est que la puissance publique n'a pas respecté sa propre loi de 2001. Elle prévoit que chaque élève de l'école jusqu'au lycée bénéficie de trois séances chaque année d'éducation à la sexualité de manière progressive. Le problème, c'est que ces ateliers n'étaient jusqu'à présent que très peu, trop peu organisés. Le tribunal constate donc que cette mission n'avait pas été assurée de façon systématique. À ses yeux, cette carence de l'État est une faute. En revanche, la justice rejette la demande des associations de contraindre le ministère de l'Éducation à mettre en œuvre ce dispositif aujourd'hui, puisque des programmes précis ont été publiés en février dernier. C'est d'ailleurs ce que met en avant aujourd'hui le ministre. Il promet un suivi pour mesurer le nombre de séances effectuées. Les associations sont plus sceptiques. Elles estiment que la loi n'est toujours pas appliquée cette année et que ces séances peinent à se mettre en place.
Noémie Bonin, merci. L'Élysée a dévoilé aujourd'hui les 10 projets lauréats de rénovation urbaine prévue dans 10 quartiers prioritaires. Parmi les villes concernées, il y a Marseille, mais aussi Sedan dans les Ardennes, Pessac en Gironde ou bien Coulommiers en Seine-et-Marne. Bonsoir Chloé Leprince.
Bonsoir.
La politique de la ville retrouve des ambitions, mais cette fois le chantier, Chloé, mise sur la participation des habitants.
Oui, avec des jurys citoyens, une méthodologie adaptée du modèle suisse par le chercheur Romain Gallard, spécialiste de participatif. Ce concours, Quartier de demain, se veut contributif, alors pas dans le choix des sites, ni même dans leur destination finale, une tour ou carrément le centre-ville à l'Odève. Mais les trois finalistes pour chaque site ont dû écouter et convaincre les représentants des habitants qui ont voté, comme le préfet ou le maire. Concrètement, les architectes en compétition ont dormi dans les tours HLM à Sedan ou passé une journée avec des dames de cantine à Coulommiers. Alors, en urbanisme, le participatif, ça n'a rien d'inédit. On critique même parfois son usage un peu démagogique, voire un outil politique pour acheter le consentement des habitants. Cette fois, l'ambition affichée était de miser sur le dialogue pour diagnostiquer les besoins et même designer des meubles à Corbeil-Essonne pour la future médiathèque de la cité des Tarterets dans l'ancienne chaufferie désaffectée. Alors, il faut nuancer hein, sur des questions très techniques, l'expertise béton par exemple. Les jurys citoyens se sont parfois retrouvés un peu secs, mais le but était que dans ces quartiers qui représentent quand même 8 % de la population en France, eh bien personne ne parle à la place des habitants. Au Mans, Émile a fait valoir les questions de handicap, par exemple.
On nous rabâche les oreilles avec ça, la démocratie participative, on est dedans. Et moi, je suis fier d'avoir voté pour un truc, c'est mon choix. Et j'étais pas d'accord avec eux, moi j'ai pas voté pour leur choix.
Vous n'avez pas voté pour celui qui a gagné ?
Non, au départ, non. Mais après, démocratie participative, je l'avais annoncé et j'ai tenu ma parole, on sera lié à la majorité. Il y a moyen de s'intégrer au truc, de parler. Quoi. C'est important qu'on fasse ça, parce que le monde, c'est nous.
De quoi infléchir des projets, et pas qu'à la marge parfois, à Corbeil-Essonne. On dit que c'est le projet qui a le plus tenu compte des retours des habitants qui a été choisi. Fayad a 19 ans, il est étudiant au Tarteret et membre de ce jury citoyen.
Nous, on avait vraiment des valeurs comme cahier des charges. La cuisine, c'est pas vraiment une valeur, c'est une obligation. La solidarité et la modularité. Bon, en fait, c'est-à-dire que les habitants pourront faire ce qu'ils veulent et proposer un peu de tout et pas se spécialiser dans une seule chose, c'est important.
Et si Fayad cite la cuisine, c'est justement parce qu'au Tarteret, le jury citoyen a réclamé une cuisine commune dans la future médiathèque.
Cela veut dire, Chloé, que les vœux des habitants peuvent être loin des choix des aménageurs ou des architectes ?
Oui, prenez les cuisines ouvertes, par exemple, pour économiser 4 ou 5 mètres carrés et des fenêtres. Et puis, parce que c'est un code culturel des donneurs d'ordre et des architectes, on s'est mis à ouvrir les cuisines des logements sociaux à la fin des années 90. Et on a découvert que les familles remontaient des murs. Pierre Gilbert, sociologue, était l'invité de Quartier de demain.
Notamment parce que dans les quartiers populaires, on n'a pas beaucoup d'espace à soi. Contrairement, par exemple, à l'habitat pavillonnaire ou à des logements bourgeois plus grands. On n'a pas beaucoup de pièces où se réfugier, où on peut se retrouver seul. On n'a pas d'atelier, de garage, par exemple, pour bricoler. Et donc, la cloison entre la cuisine et le salon, elle est essentielle. Il y a d'autres raisons qui sont liées à la représentation de la propreté. Et dans les quartiers populaires, tenir sa cuisine propre, c'est un élément majeur en fait du statut social. Donc dès lors qu'on fait sauter la cloison et que souvent la cuisine est directement visible depuis l'entrée, quand on a des visites comme ça impromptues, ça met en danger la réputation et ça se traduit par un surtravail domestique réalisé la plupart du temps par les femmes.
Et au point que sur le terrain, des familles ont même quitté des logements neufs qu'elles avaient pourtant eu du mal à obtenir.
Les enjeux de la rénovation urbaine, un dossier préparé par Chloé Leprince. Cette dernière information, constatant l'absence de Shein à une convocation, la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, Sandrine Lefeur, annonce qu'elle va saisir la procureure de la République. Le groupe Shein avait demandé la semaine dernière un nouveau report de cette audience devant les députés. Il affirmait souhaiter attendre d'abord la décision du tribunal judiciaire de Paris sur sa suspension. Suspension réclamée par l'État en raison des produits interdits qu'elle vendait sur sa plateforme. Un mot du temps, demain, un ciel très pluvieux sur le sud-est de la Méditerranée aux Alpes avec de la neige en montagne. De la pluie également plus au nord sur le Grand Est. Ailleurs, des éclaircies seront possibles. Les températures minimales iront de 2 à 11 degrés du nord au sud avec quelques gelées par endroit. L'après-midi, il fera entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec M. Le Chili à la technique Ludo. Ludovic Auger, je vous retrouve à 19h pour un prochain point sur l'actualité.